Je crois bien que le spectacle qui suscite le plus de ravissement de la part de tous ceux qui sont présents, invités ou badauds, est une mariée dans sa robe du grand jour. Cette femme, toute bien parée de la tête aux pieds, crée une ambiance féerique qui fait rêver. S'il en est ainsi pour une femme, qu'en sera-t-il pour l'épouse de l'agneau ? Je continue maintenant de lire dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Alors, l'un de cet ange qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Généralement, quand un ange s'adresse à Jean, il ne décline pas son identité. Mais ici, l'apôtre le voit venir de loin, pour ainsi dire, car c'est l'un de ceux qui ont officié comme bourreau pour juger les habitants de la terre. Cette nouvelle révélation que reçoit Jean a lieu après le millénium, alors que la dernière fois, il a vu un ange. C'était pour lier Satan et l'enfermer dans l'abîme. Un événement ordonné par Dieu qui a eu lieu avant le début du millénium. L'ange qui apparaît ici, ou l'un de ses six camarades, s'est déjà adressé à Jean dans presque les mêmes termes à la fin de la période des sept ans de la tribulation. Au début du chapitre 15, on lit « L'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler. « Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Ce jugement est prononcé sur le système apostat et idolâtre institué par l'Antichrist et qui est symbolisé par l'antique ville de Babylone appelée la grande prostituée. Mais ici, l'ange veut montrer à Jean un personnage qui, lui, est diamétralement opposé, puisqu'il s'agit de la mariée, l'épouse de l'agneau. Elle porte deux titres pour la mettre en valeur, mais aussi parce qu'elle est à la fois la mariée de l'Éternel et l'épouse de Jésus-Christ. Elle sera unie au Seigneur dans une étreinte intime et une communion spirituelle pour l'éternité. Tout comme Babylone se confond avec une prostituée à cause de son idolâtrie, la nouvelle Jérusalem se confond avec la mariée et l'épouse de l'agneau. Le contraste entre les deux villes ne pourrait pas être plus marqué, franc et massif. Cela dit, il faut quand même faire une distinction entre le lieu de résidence des rachetés et les croyants eux-mêmes, c'est-à-dire les habitants, entre d'une part la Nouvelle Jérusalem et d'autre part la mariée, l'épouse de l'agneau, qui est l'Église qui comprend dorénavant tous les rachetés de tous les temps. Jean identifie la Nouvelle Jérusalem à la mariée et épouse, parce que la ville a pris le caractère de ses habitants, ce qui fait qu'ils forment un tout. De plus, la Nouvelle Jérusalem a spécialement été créée par Dieu pour son peuple et pour demeurer en son sein. Je continue le texte. Il, l'ange, m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Jean a déjà dit deux fois quand l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et ici, c'est la seconde fois qu'il dit être emmené en esprit. La première fois, l'apôtre est transporté dans le désert et il voit une femme assise sur une bête. Il s'agit de la prostituée, la ville de Babylone, chevauchant l'Antichrist. Ici, Jean se retrouve sur une grande et haute montagne, au lieu de désert. Et c'est Jérusalem, la ville sainte, qui est devant ses yeux et elle descend, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Parce que les villes auxquelles nous sommes habitués sont construites sur la terre ferme et s'élèvent de bas en haut. Et il existe même un gratte-ciel à Dubaï qui fait 1 kilomètre de haut. Mais la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Il s'agit de la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Il semble que cette ville se trouve quelque part entre le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je continue le texte. Elle, la nouvelle Jérusalem, rayonnait de la gloire divine. La gloire de Dieu est la manifestation de sa personne et donc la somme de tous ses attributs. Pendant leur pérégrination dans le désert, chaque fois que les Israélites se révoltent contre Moïse, l'Éternel apparaît pour les punir. La gloire de Dieu suscite la terreur dans le cœur de l'homme pécheur. Par contre, le croyant anticipe sa venue avec joie, car il sait qu'un jour, revêtu de la justice du Christ, il pourra contempler la face de Dieu dans sa première épître, Jean écrit. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alors que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu remplit le temple, dans la Nouvelle Jérusalem, la gloire de Dieu rayonne au sein de son peuple, dans la ville qui, pourrait-on dire, est aussi le temple de Dieu. La présence majestueuse de Dieu est telle qu'un peu plus loin, Jean écrit, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'anneau lui tient lieu de lampe. » Je continue le texte. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Jean essaie de décrire ce qu'il voit en utilisant le cadre de référence de ses lecteurs. Alors qu'il regarde la Nouvelle Jérusalem, il compare son éclat à une pierre de jaspe. Un mot grec pour « éclat » décrit une source de lumière et signifie aussi « luminaire céleste ». Ce mot est utilisé dans le récit de la création. Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Alors que la lumière et la chaleur du soleil sont des manifestations physiques d'une combustion de gaz, la lumière de la Nouvelle Jérusalem provient uniquement du rayonnement de la gloire de Dieu. A priori, il paraît surprenant que Jean compare la ville de Jérusalem à du jaspe, qui est une pierre opaque et non pas d'une transparence cristalline. Mais il s'agit d'un problème de sémantique, car en réalité, jaspe est une translittération du grec, qui signifie « translucide ». Ce que dit Jean est donc que la ville lui rappelle une pierre très précieuse, d'une transparence cristalline. Alors, pourquoi n'a-t-il pas simplement dit que la Nouvelle Jérusalem ressemblait à un diamant, à des facettes qui brillent de tout feu, par exemple? Eh bien, parce qu'à cette époque, le diamant n'est pas considéré comme une pierre précieuse. Jean tente de son mieux, et en fonction des valeurs de son temps, de mettre par écrit la beauté de la ville. Mais comme je l'ai dit, les mots lui font défaut, car la réalité dépasse la fiction. Il semble bien qu'ici, l'apôtre dise que la Nouvelle Jérusalem ressemble, non pas à du jaspe tel qu'on le connaît, mais à un énorme diamant réfléchissant la gloire de Dieu dans toutes les directions. Je continue le texte. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Pour décrire la ville, Jean utilise souvent le nombre 12. Ici, nous avons 12 portes, 12 anges et 12 tribus d'Israël. Plus loin, il mentionne 12 fondements et 12 apôtres. Il dit aussi que la ville fait 12 000 stades de côté. La muraille est de 144 coudées de haut, soit 12 multipliés par 12, et enfin que les 12 portes sont 12 perles. La haute muraille et les portes gardées par des anges communiquent l'idée de sécurité absolue. L'idée comme quoi il n'y a rien à craindre est renforcée par le fait que plus loin, Jean dit que ces portes sont toujours ouvertes. Je continue le texte du chapitre 21. Les portes étaient orientées. 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. Cette disposition rappelle la répartition des 12 tribus autour du tabernacle. Jean ne nous donne pas les noms des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, mais il est probable que ce sont les mêmes que les noms des portes du temple du millénium. Or, nous les connaissons parce qu'ils nous sont donnés par le prophète Ézéchiel. La présence des noms des tribus d'Israël sur les portes de la Nouvelle Jérusalem a pour but de rappeler pour l'éternité que Dieu tient les promesses qu'il fait et respecte l'alliance éternelle qu'il a conclue avec Abraham et ses descendants, le roi David en particulier. Je continue. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Tout comme les 12 tribus d'Israël sont en réalité 13, les 12 apôtres sont également 13. Cependant, on ne sait pas si c'est Paul ou Matthias qui est omis. Comme ce dernier est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, et qu'après son élection par les 11 apôtres, on n'entend jamais plus parler de lui, il semble que c'est plutôt Paul qui remplace Judas et fait donc partie du groupe des 12. Les noms des apôtres rappellent la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'Église, et c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire sur laquelle repose l'Église. Tandis que les 12 apôtres constituent sa fondation, car ils ont été les premiers à prêcher, à donner la direction, à suivre aux Églises, et à suivre l'exemple du diacre Étienne, qui a sacrifié sa vie pour la cause du Christ. Les 24 noms des tribus et des apôtres témoignent de la grâce que Dieu a fait aux hommes, de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Je continue. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension. Dans sa vision, le prophète Ézéchiel assiste à la prise des mesures du temple du millénium, et Jean, celle du temple de la tribulation. Ces deux métrages, ainsi que celui de la Nouvelle Jérusalem, ont pour but de circonscrire ce qui appartient à Dieu. La forme de la Nouvelle Jérusalem ne nous est pas donnée. Ce pourrait être une pyramide, mais il s'agit certainement d'un cube pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est la forme géométrique que l'Éternel choisit pour le lieu très saint du tabernacle et du temple, sans doute parce qu'il symbolise la perfection. Il semble que quand Dieu est au milieu de son peuple, il choisit d'habiter un cube. Deuxièmement, dans les Écritures, la forme pyramidale a mauvaise réputation parce qu'elle figure dans les religions païennes où elle est associée à l'idolâtrie. En effet, on trouve presque toujours à son sommet un temple consacré à l'adoration des astres. De plus, après la construction de la tour de Babel, les Écritures condamnent toute activité religieuse qui a lieu sur des hauts lieux, que ce soit une colline ou une ziggoura. La Nouvelle Jérusalem fait 12 000 stades de côté, ce qui correspond à 2220 kilomètres de long et de large, mais aussi de hauteur, ce qui, au premier abord, a de quoi surprendre. Mais si on y réfléchit, ce n'est guère étonnant, parce que le cube est l'espace idéal pour les déplacements d'un corps ressuscité. En effet, comme il n'est plus soumis aux forces électromagnétiques et gravitationnelles, il peut aller dans toutes les directions, que ce soit sur un plan horizontal, vertical, oblique ou en zigzag. Les rabbins ont un dicton selon lequel Jérusalem sera agrandie jusqu'à atteindre les portes de Damas et exaltée jusqu'à atteindre le trône de Dieu. La Jérusalem céleste s'étendra donc du ciel à la terre et les unit l'un à l'autre. Cela dit, comme un cube dans l'espace, ça choque un peu. On peut envisager que la nouvelle Jérusalem sera à l'intérieur d'une sphère. Elle fera alors 3845 km de diamètre, soit 10% plus grande que la Lune. 3456 km de diamètre. La nouvelle Jérusalem est immense, certes, mais est-elle suffisamment grande pour contenir tous les croyants de tous les temps? Oui, parce que dans l'éternité, la notion d'espace n'existe pas. Les croyants sont comme les anges, hors de l'espace-temps, qui nous emprisonnent ici-bas. Ils n'habitent pas seulement une surface plane, comme dans les villes actuelles, mais un volume à trois dimensions. Si on ramène ce concept aux deux dimensions qui nous sont familières, c'est comme si les croyants occupaient 2220 km à la puissance 3, soit près de 11 000 km². Si ça ne semble pas suffisant, il suffit de se rappeler que les corps ressuscités ne prennent aucune place. Les enfants qui vont au catéchisme demandent souvent, sur un ton de plaisanterie, combien d'anges peuvent contenir sur une tête d'épingle? Mis à part le fait que cette question est stupide, elle répond aux soucis de ceux qui peuvent se demander si dans la nouvelle Jérusalem les rachetés ne vont pas être serrés comme des sardines. Je continue le texte. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées d'après la mesure humaine employée par l'ange. Ces 144 coudées mesurent l'épaisseur de la muraille, ce qui correspond à un peu plus de 65 mètres. L'information supplémentaire, d'après la mesure humaine, signifie que l'ange se sert de nos dimensions. Or, que ce soit un homme ou un ange qui utilise l'instrument de mesure, un mètre reste toujours un mètre. Ce détail est important car il montre que toutes les dimensions données sont littérales et non pas symboliques. Je continue. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. On peut se demander à quoi sert cette muraille, puisqu'il n'existe pas d'ennemis. Et puis, d'une part, les corps glorifiés ne peuvent pas être blessés. Et d'autre part, Dieu réside au milieu de son peuple. Cette muraille est donc purement symbolique. Elle signale, une fois encore, que dans la nouvelle Jérusalem, les rachetés vivront en sécurité sans jamais être inquiétés par quoi que ce soit. On sait déjà que l'éclat de la ville rappelle une pierre précieuse d'une transparence cristalline, qui est sans doute du diamant. Maintenant, Jean nous donne quelques détails supplémentaires. Il dit que le matériau de la muraille est une pierre précieuse transparente, ce qui correspond également à du diamant. Quant à la ville elle-même, c'est de l'or pur. Mais il est différent de ce que l'on connaît aujourd'hui puisqu'il est transparent comme du cristal pur, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers. Toutes les constructions sont transparentes afin que la gloire de Dieu puisse les traverser et rayonner dans toute la ville. Cela n'est pas dire que des murs noirs, opaques, empêcheraient Dieu de manifester sa gloire. Mais ce n'est pas un genre de matériau qui apparaît dans les Écritures pour décrire Dieu. Je continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier, de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolide, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise et le douzième d'améthyste. Les fondements de la muraille qui porte les noms des apôtres sont embellis par toutes sortes de pierres précieuses de toutes les couleurs. Comme au cours des siècles, certains noms ont changé. Leur traduction est parfois incertaine. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les 12 pierres que Jean mentionne expriment, en termes humains, la magnificence de la Nouvelle Jérusalem. Au moins, 8 de ces 12 pierres, et peut-être même toutes, se retrouvent sur le pectoral du grand prêtre, où elles sont serties en 4 rangées. Dans la législation française, sont pierres précieuses le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir, tandis que les autres sont dites pierres fines. Comme je l'ai déjà dit, le jaspe désigne probablement le diamant qui est la pierre la plus dure qu'on connaisse. Transparent, il décompose la lumière en ses différentes composantes qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel et dans toutes les directions. Le saphir est une pierre un bleu violacé, éclatant, intense ou velouté, qui se trouve surtout en Asie du Sud-Est. Après avoir donné la loi à Israël, Moïse, le grand prêtre Aaron, accompagné de ses deux fils, ainsi que 70 responsables d'Israël, gravissent le mont Sinaï. Le texte dit alors « Ils virent le Dieu d'Israël ». Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. Dans l'Antiquité, le saphir est utilisé comme porte-bonheur par les voyageurs, car on croit alors qu'il protège de la peste, des éclairs, des blessures et procure un gîte agréable. La chalcédoine est originaire d'une cité grecque, Bithynie, aujourd'hui dans le nord-ouest de la Turquie. C'est du quartz, et il en existe plusieurs variétés, comme l'agate ou l'onyx. On en trouve dans plusieurs régions de France, en Auvergne, dans le Finistère, dans le Tarn ou le Midi-Pyrénées. L'émeraude est une pierre d'un vert brillant, utilisée comme monnaie d'échange à Babylone au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les Celtes, puis les Romains, exploitent une mine en Autriche. Et aux Indes, en 1695, on découvre une émeraude appelée la pierre du Grand Mogol, qui pèse un peu plus de 43 grammes et porte des inscriptions religieuses. En soi, une pierre précieuse n'est jamais qu'une pierre. Ce qui est important est la valeur qu'on lui attache et l'usage qu'on en fait. L'empereur Néron se sert d'une lame d'émeraude pour corriger sa myopie quand il regarde les gladiateurs s'entretuer. Heureusement pour l'émeraude, elle conserve son titre de noblesse parce qu'elle est incorporée au pectoral du grand prêtre et au fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem.